Voilà, comme vous le voyez, pardon, bonjour à toutes et à tous d'abord. Comme vous le voyez à l'écran, on continue notre série de prédications sur la seconde épître aux Corinthiens. On a vu que dans les sept premiers chapitres, eh bien, il est question de la réconciliation de Paul avec les Corinthiens. En effet, quelques années après avoir fondé cette église, Paul a appris qu'il y avait des dysfonctionnements, des divisions, des erreurs doctrinales qu'il a voulu corriger. Et ce qui a été source de tensions, de contestations, d'incompréhensions entre l'apôtre et certains Corinthiens. Il a fallu plusieurs lettres, une visite qualifiée de douloureuse, pour finalement permettre à Paul d'amener les Corinthiens à la repentance et à la réconciliation. Néanmoins, il reste quelques membres de l'Église qui continuent de contester son autorité et de critiquer sa façon de faire. Dans les chapitres 10 à 12, Paul défend son ministère, répond point par point aux attaques dont il est l'objet et dénonce les travers de ceux qu'il appelle ironiquement des super apôtres. Ce matin, donc, nous n'étudierons que le chapitre 10 et les 15 premiers versets du chapitre 11. Nous ne verrons donc pas la totalité de la réponse de Paul ce matin. Ce message sera complété par deux autres prédications sur la fin de l'Épître. Alors, sur le planning de l'Église, le thème qui m'était proposé, c'était le vrai leadership contre le faux. Je me suis dit qu'il est toujours utile de s'entendre au préalable sur le sens des mots qu'on emploie. Bon, leadership, ça parle beaucoup pour certains, pour d'autres, pas forcément. Alors, j'ai ouvert un dictionnaire, tout simplement. Le leadership, c'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. C'est un peu long, je vais le relire. C'est la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus dans le but d'atteindre certains objectifs. Dans le langage sportif, on dirait c'est un coach et il place la barre à telle hauteur et il dit voilà, maintenant il va falloir passer ça. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer, d'inspirer dans le but d'atteindre certains objectifs. Dans notre passage, Paul répond à ses détracteurs qui critiquent sa personne, sa façon de faire et qui contestent son autorité. Bref, ils remettent en question son enseignement, sa légitimité à diriger l'église de Corinthe. En résumé, aujourd'hui, on dit qu'ils contestent son leadership. Et on devine dans leur façon de formuler leurs critiques qu'en fait, ils aimeraient un autre leadership. La prédication de ce matin se décomposera en trois temps. Le premier, plus rapide, où nous regarderons ce qui est reproché à Paul. Le second, où nous commencerons à regarder comment Paul se défend. Et puis le troisième, ça sera plutôt une mise en application pour nous. Comment, pour nous, différencier un vrai leader d'un mauvais leader? Quel est le but d'un vrai leader? Comment est-ce qu'il exerce son leadership? Alors, je n'ai pas du tout la prétention d'être complet. D'abord, je vous ai dit, le texte est beaucoup plus long que ce que nous étudierons ce matin. Alors, j'ai fait un choix qui ne me contente pas forcément à 100%, mais j'ai glané quelques éléments de réponse au fur et à mesure de la lecture. Et je ne doute pas que mes successeurs reformuleront tout ça à la fin dans une conclusion pour compléter les choses. J'ai fait un autre choix qui, là non plus, ne me satisfait pas totalement, mais j'ai fait le choix de ne pas lire ce passage qui est long. Je me suis entraîné à la maison, j'ai mis 7 minutes à le lire, du moins si je ne veux pas en faire un sprint de lecture, quoi. Donc j'ai choisi de vous lire les versets, mais au fur et à mesure de la méditation. Et donc, on lira la quasi-totalité du passage, mais en plusieurs temps. Et puis, troisième choix fort, j'ai choisi de vous lire dans Parole Vivante, qui est une version plus commentée que littérale, je veux dire. Mais j'ai trouvé qu'à certains moments, les arguments apparaissaient mieux dans cette formulation. Première partie, que reproche-t-on à Paul? Paul serait faible. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 10, verset 10, « Ses lettres sont sévères et énergiques, Mais lorsqu'il se présente lui-même parmi nous, il fait pas guère impression. C'est un faible. Il manquerait d'éloquence. Le verset continue en disant « Ses paroles ne font pas le poids ». Petite parenthèse, quand je lis ça et qu'on connaît la personnalité de Paul, on se dit quand même « Ils sont gonflés ». Quoi. Hein? Bon. Paul manquerait de constance. Ce serait une girouette. Il changerait d'avis au gré du vent. Au chapitre 1, au verset 16, Paul anticipe déjà la réponse où il disait « Je comptais passer par Corinthe et vous saluer en allant à Macédoine pour puis revenir de là-bas chez vous. Vous auriez alors pu m'aider à préparer mon voyage en Judée et m'y faire accompagner. Tel était mon projet. Ai-je donc agi avec légèreté en le concevant? Suis-je instable et capricieux parce que j'ai changé mes plans? Ou bien mes résolutions seraient-elles inspirées par des motifs purement humains, ou par des arrière-pensées, ou par l'humeur du moment, tout comme celle des gens du monde, en sorte que si je dis oui, cela pourrait bien signifier non, et que mon non, oui aujourd'hui, pourrait être non demain? Bon, là on peut bien penser que Paul est en train de reprendre tout ce qu'il a entendu dire à son sujet. Il serait donc instable, capricieux, il peut-être même calculateur. Et puis, Paul veut rester indépendant financièrement. Et il répond, « Ma faute a-t-elle peut-être été de me faire petit et humble et d'avoir préféré passer par la porte de service en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu pour que vous puissiez vous élever ?» C'est vrai que passer par la porte de service, ce n'est pas une image très glorieuse, hein, ce n'est pas la grande porte où on voit arriver les gens. Paul a accepté de vivre très modestement. Au chapitre 11, il dit même qu'il lui est arrivé de manquer du nécessaire. Et je pense que dans l'esprit de ses détracteurs, ce qui est gratuit, ben ça n'a pas de valeur. Hein, ce qui a de la valeur, on l'achète. Si c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Et puis l'humilité, ben, c'est probablement un signe de faiblesse. Et en refusant l'argent des Corinthiens, ben, peut-être que Paul montrerait qu'il ne les aime pas vraiment. Finalement, il ne s'y intéresse pas plus que ça. Là aussi, on se dit que c'est quand même un comble. Et puis, ben, Paul serait même autoritaire. Puisqu'il dit pour sa défense, au chapitre 10, verset 8, « Vous pensez que je me vante un peu trop de l'autorité que le Seigneur m'a donnée sur vous ?» Alors on se dit que comme il y a eu pas mal d'échanges entre Paul et les Corinthiens, peut-être que Paul, à plusieurs reprises, a dû rappeler qui l'avait missionné pour ça. Jésus lui-même. Il l'a peut-être rappelé souvent. Les super apôtres, eux, ils se vantent d'avoir des lettres de recommandation de personnages importants. Mais qui sont-ils face à Jésus ? Moi, je me dis, ils doivent en avoir marre qu'on leur oppose Jésus. Alors, comment est-ce qu'ils essayent d'atténuer l'argument en disant « Oui, mais ça, tu nous l'as déjà dit 10 fois. » Est-ce que c'est pour ça que l'argument est moins puissant ? Deuxième partie, comment Paul répond à ses détracteurs ? Au sujet de sa faiblesse, il leur dit « « Je vous en prie, ne m'obligez pas lorsque je serai chez vous à donner des preuves de mon autorité et à montrer que je sais aussi être hardi de près, car je compte bien user d'autorité, si besoin est, vis-à-vis de certains qui me reprochent ma conduite terre à terre et peu chrétienne. » Vous relèverez deux choses. J'userai d'autorité si besoin est. Donc Paul ne se montre pas là comme quelqu'un d'autoritaire qui veut tout régler, mais quand c'est nécessaire, là, il fait preuve d'autorité, vis-à-vis de certains. Il ne met pas tout le monde dans le même sac. Il est lucide sur où sont ses adversaires. Et je me dis que le « si besoin est » laisse encore du temps aux Corinthiens éventuellement de changer d'attitude. que ceux qui tiennent ces propos sachent une chose. À notre arrivée, nous agirons en leur présence avec la même autorité que celle reflétée par nos lettres. Nous confirmerons par nos actes le langage que nous tenons à distance. Ah, vous dites que je suis fort en parole. Ben, vous allez voir quand je serai devant vous comment les choses vont se passer. Paul relève le défi. Et nous verrons plus tard que c'est par compassion et par amour, dans le souci de ne pas accabler exagérément les Corinthiens, qu'il a fait preuve de modération à certains moments dans ses reproches, et ça n'était pas de la faiblesse. Paul a déjà montré qu'il savait prendre position fermement quand il le fallait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la première épître, au chapitre 5, il nous parle d'un cas d'inceste. Et où Paul est très clair en disant « Moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Et il s'étonne que l'église de Corinthe n'ait pas elle-même pris les dispositions pour régler ce cas. Et il ne prend pas de demi-mesure, puisqu'il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais plus tard, il dira que quand l'homme s'est repenti, alors il a retrouvé sa place dans l'église. Donc vous voyez, cette façon, on l'accuse de faiblesse et puis à d'autres moments d'être trop autoritaire, c'est souvent le signe que la vérité est au milieu, on dit souvent. Paul ne fait pas de l'autorité pour briller aux yeux des hommes, pour montrer, voyez, moi je sais régler les problèmes. Paul tente de ramener le pécheur dans le droit chemin. Sa volonté n'est pas de dominer ou de punir, mais de corriger pour réparer. Enfin, il répond à l'accusation de faiblesse sur le ton de l'ironie. Oh, certes, nous n'avons pas l'audace de nous placer sur un pied d'égalité avec certains personnages dont la seule recommandation est la réclame qu'ils se font à eux-mêmes. Ils ne font pas preuve de beaucoup d'intelligence, car ils sont le seul étalon auquel ils se mesurent. Ils montrent par là combien leur oraison est limitée. Paul se moque ici de l'autosatisfaction, de la vantardise des super apôtres. On imagine Paul, là c'est mon imagination, qui dit « On me reproche de me recommander de Jésus, mais de qui vous vous recommandez, vous ? De vous ? Oh non, quelle blague ! » Et il appelle les Corinthiens, jugez par vous-même. À propos de son manque d'éloquence, vous allez voir, il se défend d'une façon habile et moi qui m'a un peu surprise. Paul ne va pas dire, mais j'ai déjà tenu de grands discours devant le roi Agrippa, par exemple, devant l'Aréopage à Athènes, tous ces gens m'écoutaient. Et il pourrait utiliser ce genre d'argument. Mais il se placerait sur le même terrain que ses adversaires. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il va se défendre. Regardez ce qu'il dit. « Je ne suis sans doute pas un brillant orateur, mais du moins je sais de quoi je parle. » Là, on a envie de dire Paul 1, super apôtre 0. Là, ils se prennent une gifle au passage. « Moi, je sais de quoi je parle. » Et je ne sais pas si vous entendez la même chose que moi, mais moi j'entends, et vous, vous savez vraiment de quoi vous parlez ? Vous faites de beaux discours, mais ce sont de fausses doctrines. Paul dit à un autre passage, « Je vous ai fait connaître pleinement et clairement la vérité. C'est lui qui a posé le fondement de cette assemblée. » Ce n'est pas les super apôtres. Et il rappelle ici que le fond est bien plus important que la forme. À propos de son inconstance, c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas retourner chez vous, ça c'était après la visite sévère, pour ne pas vous attrister de nouveau. Aussi est-ce dans une profonde détresse, le cœur serré et avec bien des larmes, que je vous ai écrit cette lettre. Non pour vous attrister, mais pour que vous sachiez combien je vous aime. Oui, j'ai changé mes plans. Mais ce n'était pas parce que je suis une girouette, c'était pour vous ménager. C'était pas un calcul, c'était de l'amour. Et puis tant pis si on me reproche d'être inconstant. L'important, ce n'est pas ce qu'on pensera de Paul. L'important, c'est l'église de Corinthe. Et il ne veut pas l'éprouver à l'excès. Remettre à plus tard son voyage à Corinthe a été compris, ou en tout cas décrit par ses détracteurs, comme un signe de désintérêt, de faiblesse, voire de lâcheté. Paul leur répond que c'est par amour qu'il a différé son voyage, sans y renoncer. À propos de son indépendance financière, c'est quand même assez paradoxal. Je veux dire, à notre époque, il y a beaucoup plus de scandales de gourous qui vivent sur le dos des gens qu'ils enseignent que de scandales sur des gens qui annoncent bénévolement quelque chose. Paul est méprisé parce qu'il est pauvre, parce qu'il vit pauvrement, alors que d'autres sont admirés parce qu'ils sont riches. Alors Paul répond, chapitre 11, « J'ai appauvri d'autres églises en acceptant d'elles des subsides pour exercer mon ministère auprès de vous. Pendant tout mon séjour chez vous, je n'ai été à la charge de personne, quoique je me sois trouvé dans la gêne. Ce sont des chrétiens venus de Macédoine qui ont pourvu à mes besoins jusqu'au bout. Je me suis soigneusement gardé de vivre à vos dépens, afin de n'être un fardeau pour aucun de vous, et j'agirai de même à l'avenir. Aussi vrai que le Christ habite en moi, je ne me laisserai pas ravir ce sujet de fierté dans les provinces grecques. Pourquoi agir de la sorte? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu sait combien je vous aime. Mais je me conduis ainsi, et je suis décidé à continuer de le faire, pour couper l'herbe sous les pieds de ceux qui se vantent, et qui cherchent un prétexte pour se placer sur un pied d'égalité avec nous. Ce prétexte, je ne leur fournirai pas. S'ils se prétendent nos égaux, eh bien qu'ils commencent par agir comme nous sur ce point. Au lieu de me reprocher de travailler gratuitement, eh bien faites-le, ce travail gratuit. On verra quelles sont vos véritables motivations. Paul lance un défi. Faites comme moi. Annoncez l'évangile gratuitement. Et il se dit que bien là, on verra tout de suite à qui on a affaire, s'ils sont vraiment sincères dans leur façon d'annoncer l'évangile, ou s'ils sont intéressés et s'ils cherchent à prendre la main sur une église, à gagner une grande situation. Et Paul continue au verset 13, « Mais ils ne risquent pas de le faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile gratuitement, car ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. » Et ça n'a rien d'étonnant. Leur maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ses agents se présentent des serviteurs de Dieu juste. Mais tout a une fin, et un jour ils recevront ce que méritent leurs œuvres. Là, il a enlevé la petite protection au bout du fleuret. Je veux dire, c'est plus à épée mouchetée, là. Il les traite de agents de Satan. Oui, il n'est pas vraiment faible, Paul, là, quand il parle comme ça. 2 Corinthiens 12, verset 14, « Je suis sur le point de venir chez vous pour la troisième fois. Je ne serai toujours pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Finalement, ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents, ce sont les parents qui doivent économiser pour les enfants. » Ici, Paul utilise une image. En tant que père de l'église de Corinthe, c'est à lui de pourvoir à leurs besoins et non pas le contraire. Paul ne demande rien pour lui-même, mais c'est lui qui enrichit l'église par son enseignement. Voyons sa défense à propos de son autorité. On imagine que certains disent « Paul a besoin d'un argument vraiment massu pour éteindre le débat. C'est Jésus qui m'envoie. Silence !» On relit ce verset dont on a déjà lu une partie. « Vous pensez que je me vante un peu trop de l'autorité que le Seigneur m'a donnée sur vous. Mais je pourrais m'en prévaloir bien plus et je n'aurai pas à en rougir, car c'est bien du Seigneur que je la tiens, et il me l'a donnée pour travailler à votre édification, non à votre ruine. » Et là, Paul attire l'attention des Corinthiens en disant « Mais regardez les fruits de mon ministère et regardez le fruit de leur ministère. Ces gens-là sèment la discorde, la désunion, les scandales. Moi, j'ai construit l'Église. » Sont-ils fidèles à l'évangile que je vous ai apporté et que vous avez accepté, dira-t-il à un moment. Une façon pour lui de se défendre, c'est de dire aux Corinthiens, mais est-ce que vous auriez changé d'avis? Est-ce que ce que je vous ai annoncé maintenant, ça n'est plus le véritable évangile? Et il termine son argumentation en disant que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Je ne l'ai pas mis dans mes notes ici, mais une des défenses de Paul aussi, c'est de dire, mais moi, je laboure mon champ. Je suis venu à Corinthe, j'ai semé la parole et je travaille là. Eux, c'est un peu comme les coucous, ils sont venus dans le nid d'un autre, et maintenant ils mettent la pagaille un peu partout. Ça aussi, sachez bien à qui vous devez d'avoir été fondé en tant qu'Église, et regardez le fruit de leur travail. Troisième partie, quel enseignement pour nous? Alors d'abord, est-ce que c'est une question qui est d'actualité pour nous? La rue sonnera, ça ne ressemble pas vraiment à l'Église de Corinthe au moment où on en parle. Donc, ce n'est pas une prédication d'actualité immédiate. Maintenant, vous êtes probablement comme moi, des églises qui se sont déchirées, vous en avez connu. Et on est surpris quand c'est ça la nôtre que ça arrive. J'ai connu ça. On se demande. Des frères qu'on apprécie, qui nous ont enseigné tout, puis paf, un jour ça se déchire. Bon. Eh bien, comme je l'ai dit, je ne prétends pas du tout être complet, mais je vous propose de relire certains passages et de voir quels sont les éléments qui font que quelquefois on arrive à ces situations, peut-être pour essayer de les voir arriver à certains moments, de se dire « Oh là là, si on part sur ce terrain-là... » Je ne sais pas, moi je pense à une chose, par exemple, un signe, il y a quelqu'un dans notre assemblée qui avait pris l'habitude au micro de dénoncer les errements d'autres chrétiens. Vous vous rendez compte, tel chrétien, il prêche ceci, cela. Ben, vous savez, ça ne sème que de la discorde, on ne sème rien de bon quand on sème ça. Je vous dis, il y a des signes quelquefois qui peuvent attirer notre attention. Quelle qualité chez un leader? Quel but il nous propose? J'aimerais à présent, dit Paul, vous adresser un mot très personnel et vous exhorter par la douceur et la bonté du Christ lui-même. Dans le contexte de l'Église de Corinthe, parler de douceur et de bonté, ce n'est pas forcément les premières qualités, moi, qui me seraient venues. On se dit, bon, on a quand même besoin d'un homme à poigne qui vienne remettre un peu d'ordre là-dedans, quoi. Eh bien, Paul dit, moi, je veux m'adresser à vous personnellement, avec la douceur et la bonté du Christ. Le modèle qui est mis en avant tout de suite, c'est Jésus. Il développe en disant, sans doute nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Paul dit, en fait, c'est vrai, nous sommes des hommes comme les autres, mais nous ne luttons pas à la manière du monde, et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu, faisant prisonnière pardon, j'ai perdu le fil, voilà. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Au début, Paul dit, oui, on a des armes, mais ce ne sont pas les mêmes que les armes des hommes. On ne va pas faire un concours d'éloquence. On a vu ce que ça a donné, par exemple, au moment de la réforme, Luther, ses défenseurs, ben, ils ont perdu, ils étaient moins éloquents que les adversaires. Et donc, ils n'ont pas emporté la décision. Paul se dit, moi, je ne me bats pas avec ces armes-là. Il définit clairement son objectif, amener les Corinthiens à l'obéissance à Christ, alors que notre nature humaine nous pousse à revendiquer plutôt notre indépendance vis-à-vis de Dieu. Quant aux armes utilisées, il dit, ce ne sont pas celles des hommes, mais celles de Dieu. Vous connaissez bien ce passage d'Éphésiens 6 sur les armes du chrétien, qui commence ainsi au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'état d'esprit, de sentir quelles sont les puissances qui sont à l'œuvre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dans un litige, quand il y a beaucoup de choses qui se disent et tout, il y a des moments où on doit se dire, mais est-ce que c'est vrai ce qui est dit là? Ou est-ce qu'à force d'en parler et tout, on a fini par faire mousser plus qu'il y a de savon, comme on dit quelquefois? Enfin, est-ce que c'est vrai ce qu'on entend là? La vérité pour ceinture. La cuirasse de la justice. On lui fait tel reproche, mais est-ce que c'est juste au fond? Est-ce qu'il a vraiment voulu faire ça ou est-ce que c'est une maladresse, par exemple? Enfin, est-ce que c'est juste, cette accusation? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quand on fréquente une église depuis un certain temps, le zèle des serviteurs, on est quand même capable de l'apprécier. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et oui, Dieu permet que ce genre de choses arrivent dans l'église. Et l'église continue, grandit. L'église locale souffre, peut-être, mais la grande église, elle continue, ça n'arrête pas Dieu. Il faut avoir cette foi que c'est l'église de Dieu qui est attaquée, mais c'est quand même l'église de Dieu qui est là et qui va persévérer. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la référence suprême. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est une banalité de rappeler l'importance de la prière, mais il y a des moments où ce n'est pas forcément évident. On est pris dans les luttes et il y a des moments où on oublie peut-être de s'en remettre à Dieu. La prière est une arme vraiment puissante, efficace et nécessaire. La vérité, la justice, le zèle, s'appuyer sur sa foi, sur la parole, sur les prières. Si je continue à parcourir le chapitre 10, nous sommes prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles, dès que de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. C'est quand même étonnant ça quand on y pense. Dès que vous serez de nouveau décidés à nous écouter. Les Corinthiens ont donné l'oreille à Paul au début, quand il a annoncé. Mais Paul se rend bien compte qu'il y a eu un moment où il n'était plus écouté. Et il dit finalement, tant qu'ils ne m'écoutent pas, je peux dire n'importe quoi. C'est un dialogue de sourds. Tant qu'ils ne seront pas de nouveau décidés à m'écouter et à m'obéir, eh bien je ne peux rien pour eux. Ce n'est pas vraiment la marque d'un homme autoritaire qui veut absolument qu'on le dise qu'il ait raison. Il dit, vous êtes d'un autre avis? Eh bien, attendons de retomber d'accord pour refaire un bout de chemin ensemble, parce que pour l'instant, on est dans une impasse. Oui, un leader doit savoir se montrer ferme en certaines circonstances. On a évoqué par exemple le cas d'inceste où Paul tranche. Mais dès que de votre côté, vous serez de nouveau décidé à nous écouter, eh bien là, on voit bien qu'il y a une certaine mesure et la nécessité d'un certain discernement. Et dans les situations que j'ai eu à connaître, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des dialogues de sourds. Les camps ne s'entendent pas. Et les sourds, ce n'est pas forcément ceux d'en face, hein, ça peut être nous aussi, hein, certainement. Quand on le dit comme ça, finalement, si on n'a pas l'oreille de l'autre, eh bien parler ne sert à rien. C'est une évidence. Si nous continuons la lecture, Paul dit aux Corinthiens, « Ouvrez donc les yeux et regardez la réalité en face. » Un vrai leader doit savoir mettre en garde, être lui-même vigilant et lucide. Parlant de son autorité, Paul dit « Car c'est bien du Seigneur que je la tiens, et il me l'a donnée pour travailler à votre édification et non à votre ruine. » J'ai déjà attiré l'attention sur ce point. La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Matthieu 7, 17 par exemple. Si vous voulez évaluer les qualités d'un leader, eh bien regardez donc ses fruits. Quel est l'état d'esprit qu'il infuse dans l'Église ? Est-ce que c'est quelqu'un d'apaisant ou est-ce que c'est quelqu'un, au contraire, qui excite un peu les querelles par sa rigidité, par... Bon. Les fruits, quels sont-ils? Les super apôtres, eux, ben, c'est des querelles et des divisions. Paul parle de ruines, alors que lui, il a construit. Si nous continuons notre lecture... En effet, est qualifié non celui qui sait se faire valoir, mais celui que le Seigneur accrédite et qui a son approbation. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai vu arriver quelquefois dans l'Église des gens qui avaient reçu un message et qui devaient absolument le délivrer, sans quoi on passerait vraiment à côté d'une grande bénédiction. Est-ce que cette simple affirmation suffit pour qu'on... laisse cette personne prendre le micro, annoncer des choses. Est-ce que n'importe qui se réclame du Seigneur a l'accréditation du Seigneur? Est-ce qu'il suffit de dire « le Seigneur m'a dit que » pour que cette parole soit digne d'être entendue? Méfions-nous des gens qui se mettent trop vite en avant. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis arrivé dans une église, soit la première, soit ici... Ben pendant un temps, on se fait petit, on regarde comment ça se passe, on est... puis soit on est d'accord et on reste, soit on n'est pas d'accord et on s'en va, mais on n'arrive pas en disant « bon, moi j'ai la vérité et je vais tout casser, quoi. On va tout changer, on va vous apprendre ». Bon, là, les super apôtres, ils arrivent, « Paul, mais non, il ne faut pas écouter ». Bon, des profils comme ça, il faut être attentif. « Je vous aime jalousement ». Là aussi, peut-être juste un témoignage personnel d'une fois où un membre de notre église avait tenu des propos pas très aimables au sujet d'un autre membre, et l'un des anciens avait une réaction sur le moment. Il avait été littéralement scandalisé. Et moi, je m'étais dit, bon d'accord, c'est pas sympa, mais il n'y a pas de quoi. Mais en fait, il était scandalisé qu'un frère dise du mal d'un autre frère, en disant au sein de l'église, c'est des paroles qu'on ne tient pas, ça. Bon, il aimait jalousement l'Église et il n'acceptait pas qu'on dise du mal des membres de notre Église. Et la jalousie au sens de Dieu, ce n'est pas la jalousie au sens humain, ce n'est pas la volonté de posséder pour soi seul. C'est simplement, il ne veut pas partager les membres de l'Église en partie avec le diable. Vous êtes pour moi comme une jeune fille pure que j'aurais fiancée à un seul homme, c'est ainsi que je vous ai amené et présenté au Christ. Un vrai leader spirituel aime l'Église d'un amour désintéressé. Je reprends la formule, il veille sur le troupeau avec une sainte jalousie. Enfin, on a déjà commenté ce verset. Bien sûr, un vrai leader doit connaître le message de la Bible, savoir réfuter les fausses doctrines et avoir un comportement cohérent avec cela. Et c'est important pour Paul de rappeler ça aux Corinthiens, parce que si vous vous rappelez ce qu'on avait dit de l'église de Corinthe, les membres de l'église de Corinthe viennent d'horizons très très divers. Il y a de tas de sortes de croyances qui peut-être subsistaient. La tendance est grande, quand on a cru à des choses pendant certains temps, de conserver quelques petites choses de nos anciennes croyances. C'est un peu ce qu'on appelle le syncrétisme. On voudrait bien que tout ça, ça cohabite bien. Ben, quand Paul dit « je sais de quoi je parle », oui, un leader doit savoir clairement ce qui est biblique et ce qui n'est pas biblique. Le fond est bien plus important que la forme, c'est ce qu'avait Paul avait dit déjà, ceci. Et une remarque que je me fais, et notamment pour moi aussi, qui fait partie des gens qui enseignent, les meilleurs enseignants, ce n'est pas forcément les plus éloquents. Ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus agréables à écouter. Je ne vais pas dire, moi aussi, je préfère quelqu'un qui s'exprime facilement, qui, hein, plutôt que quelqu'un qui bute sur les mots et tout. Bon, mais est-ce que c'est ça qui fait la qualité d'une prédication? Clairement non. Ma faute a-t-elle peut-être de me faire petit et humble, on l'a déjà lu, d'avoir préféré passer par la porte de servir en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu pour que vous puissiez vous élever? L'humilité, ça aussi, c'est quelque chose d'important pour un leader. Et vous savez, on a une responsabilité, nous, membres d'Église, c'est de ne pas monter nos leaders sur un piédestal, ni de les rabaisser d'ailleurs. Je veux dire, c'est tellement facile, je veux dire, de faire part de sa satisfaction, et on veut encourager, je veux dire, on va voir quelqu'un, peut-être que quelques-uns viendront boire à la fin du message en disant c'était bien ou pas, c'est votre responsabilité de l'apprécier. Mais c'est tellement facile d'être sensible à la flatterie et tout, je veux dire, tellement facile de faire croire des choses aux gens, on doit rester humble pour que ce qui est cherché, c'est l'élévation de Christ dans l'Église. À propos des super apôtres, ils disent s'ils prétendent être nos égaux, bien qu'ils commencent par agir comme nous sur ce point, encore, l'humilité, le désintéressement. Paul met au défi ses détracteurs de l'imiter, et ils montreront ainsi leur véritable motivation. Et ça rejoint un peu les remarques que je faisais il y a quelques instants. Intéressé, c'est pas forcément par l'argent qu'on peut être intéressé. On peut être intéressé de se dire « Ah, j'aimerais bien être à sa place et parler devant le public, là, c'est valorisant. » C'est aussi une sacrée responsabilité, soit dit en passant. Hein. Voilà, j'en arrive à la conclusion, et une fois n'est pas coutume, ma conclusion, ce sera un dessin. C'est quoi un vrai leadership ? Bien, vous vous rappelez, Colin avait montré une petite vidéo hein, qui est sur YouTube. Si vous tapez 2 Corinthiens dans YouTube, et puis paf, vous avez toute la petite BD. J'ai retrouvé cette image. J'ai trouvé que le dessinateur avait bien révélé pas mal de choses importantes dans l'Église. Ben, la tête, c'est qui ? Ben, on voit bien, c'est Christ le roi. C'est lui qui est présenté en plus grand hein, sur l'image. C'est lui. Alors, il n'est pas au centre de l'Église, mais c'est quand même de l'image, je veux dire, mais c'est lui qu'on voit quand même en premier. Et puis derrière, Paul, il est enchaîné. Hein, ce n'est pas l'image qu'on voudrait. C'est pas les super apôtres, je ne pense pas qu'ils aimeraient porter des chaînes comme ça. Hein. Et puis ils sont enchaînés, mais ils ont le sourire. Hein, vous avez vu le dessin, là ? Voilà, je vous laisse méditer.